Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Bien avant que les Britanniques décident de quitter l'Union européenne, la question de la vitalité de la construction européenne se posait. Beaucoup d'espoir et quelques déceptions après le traité de Rome, le modèle européen trouve ses limites et multiplie ses détracteurs. Les réformes sont-elles possibles? Dans quel sens? Comment s'y prendre? Faut-il changer l'Europe? On va en parler avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Nicole Fontaine est l'ex-présidente du Parlement européen, ancienne ministre, auteure de Brexit, une chance, point d'interrogation, avec en sous-titre Repenser l'Europe, et c'est aux éditions Auteur du Monde. Bonsoir à vous, Nicole Fontaine.
Bonsoir.
Laure Neumayer est-elle maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Laure Neumayer. Alors, 52% des Britanniques en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Est-ce que le résultat vous a surpris rapidement, Nicole Fontaine?
Oui, je dois dire que le résultat m'a surpris. Bon, surtout après l'horrible assassinat de la députée britannique.
Wilcox.
Oui. Mais ça m'a surtout surpris parce que je pense que l'intérêt bien compris des Britanniques était de rester dans l'Union européenne, de toute évidence.
Et vous, Laure Neumayer?
Oui, également, j'étais très surprise. Je pensais qu'on avait affaire à une énième série de négociations, en fait, entre l'Union européenne et ses partenaires, entre la Grande-Bretagne et ses partenaires, comme c'est le cas depuis l'entrée, en fait, de ce pays dans la CE. Donc, j'imaginais simplement une énième péripétie.
Et puis voilà, la nouvelle est tombée.
Oui. Alors, ils avaient obtenu des concessions, finalement, très fortes, il faut bien le dire.
Et depuis, pratiquement, leur entrée
absolument.
Dans l'Union.
À chaque fois qu'il y avait une difficulté, un opting out.
Alors, quelles sont, d'après vous, les raisons du désamour qui grandit entre l'Union européenne et, de manière plus large, les populations de certains pays européens, même si elles sont encore minoritaires? Je commence avec vous, Laure Neumayer.
Je pense qu'il y a des raisons conjoncturelles, sans doute. La crise de la zone euro en est une crise dont l'Union européenne a beaucoup de mal à sortir et dont elle est rendue responsable partiellement. Et puis, je pense qu'il y a des raisons qui tiennent vraiment au projet européen et sans doute aux limites de ce projet et à la difficulté qu'ont les institutions européennes à incarner un lien politique, à exister en tant qu'espace de représentation politique. Ce qui fait que même si le Parlement européen a gagné en puissance, même si c'est aujourd'hui une institution tout à fait influente, il n'y a pas de lien qui s'est créé réellement entre les citoyens et le Parlement européen, alors que c'est de l'institution qui aurait sans doute été la plus à même de créer ce lien direct, et que les autres institutions, que ce soit la Commission européenne, la Cour de justice, qui sont également très puissantes, ont été pensées comme des institutions finalement apolitiques, qui devaient être neutres, qui devaient se garder de tout débat idéologique, et que c'est cette absence de débat idéologique, cette absence de réel débat politique qui est, me semble-t-il, le principal problème de l'Union européenne, parce que ça crée un sentiment d'opacité, de manque de transparence, de décisions prises loin des citoyens, ce qui n'est pas conforme à la réalité, parce qu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs et de partage de pouvoir, et aucun acteur ne peut s'arroger le monopole de ce pouvoir. Mais dans la perception qu'ont les citoyens de ces institutions, il y a vraiment un problème de représentativité.
Alors demandons à l'ex-présidente du Parlement européen ce qu'elle pense de cette analyse.
Je suis une européenne convaincue, mais je serai un peu plus sévère que vous. J'observe avec beaucoup de tristesse aujourd'hui le désamour croissant des peuples à l'égard d'une Europe dont ils n'attendent plus rien. Et je dirais que l'Europe est malade d'un certain nombre de maux, tout d'abord de ses dérives technocratiques, malade d'avoir été utilisée comme bouc émissaire trop facile, malade, vous l'avez fort bien dit, du déficit démocratique qui demeure malgré le Parlement européen, et voyez-vous, j'ai la lucidité de le dire, malade aussi d'une conception ultralibérale, d'ailleurs inspirée par les anglo-saxons, qui a provoqué beaucoup d'erreurs. Je pense aussi malade de ne plus avoir de pilote dans l'avion, depuis maintenant beaucoup d'années, malade des attentes déçues, et malade, enfin, de l'impuissance. et de l'impuissance et de la gestion calamiteuse de la crise migratoire.
D'accord, il semblerait...
Alors, c'est le diagnostic, parce que pour guérir le malade, il faut faire un bon diagnostic, oui, c'est bien connu.
On passe encore une minute ou deux sur ce diagnostic, parce que vous abordez un problème qui est important, cette maîtrise de l'immigration qui semble être une préoccupation commune à tous les partisans d'une sortie de l'Europe.
Oui, absolument. C'est pas tellement la maîtrise de la crise migratoire, parce qu'on a bien conscience que c'est extrêmement complexe et extrêmement difficile. Mais l'image de l'Europe a été ternie. Et elle a été ternie, notamment à l'égard dans les autres pays du monde. L'Europe était admirée, c'était formidable. On avait l'impression qu'il y avait un idéal européen. Et là, on a l'impression d'une perte de valeur. On a connu l'époque où on démolissait les murs et on construisait des ponts. Et aujourd'hui, on voit des murs qui se reconstruisent.
Ce qui semble gêner la population, c'est plus le fait... Le traité de Schengen, si pour le dire simplement, cette libre circulation des personnes qui semble ne pas satisfaire un certain nombre de
oui.
gens en Europe.
Il y a beaucoup à faire pour renforcer, bien sûr, les frontières extérieures. Bon, tout ça, c'est on voit bien.
Non, mais je parle des frontières intérieures. Là.
Oui, dans les frontières intérieures. Mais vous ne pensez pas que l'Europe qui avait la réputation d'être une terre d'accueil, a montré un égoïsme extrêmement très 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 difficile à vivre.
Je suis d'accord avec vous.
Oui.
Lorne Meyer, sur ce point précis, à la fois la protection des frontières extérieures et la difficulté qu'ont certains peuple européen à admettre la libre circulation des personnes. C'est une des raisons pour laquelle le Brexit...
L'accueil.
Je dirais,
oui. Oui, ben, je pense que ce sont deux questions en fait qui doivent être séparées puisqu'elles n'ont rien à voir. La libre circulation au sein de l'Union européenne s'est révélée plus difficile à faire accepter après l'élargissement à l'Est. Hein, puisqu'on a vu des différentiels de salaire, de coût du travail, etc. Donc je pense que ça a peut-être rendu la question plus conflictuelle. Et dans le cas britannique, l'afflux de travailleurs polonais notamment la volonté de limiter en fait même la circulation au sein de l'Union européenne. C'était un argument de campagne des partisans de la sortie de l'Union. Donc on a... D'une part, cette contestation peut-être plus forte des accords de Schengen, et puis aussi, comme le disait Madame Fontaine, des courants, xénophobes, populistes, qui jouent sur la peur des migrants et des réfugiés, et qui font un amalgame entre ces deux questions. L'Europe serait mal protégée sur le plan extérieur, et ensuite, elle laisserait en plus circuler un tas de personnes non recommandables entre les États membres à cause des accords de Schengen. Donc, il y a une confusion délibérée entre ces deux dossiers qui sont pourtant complètement séparés.
Oui, je pense aussi que ce qui apparaît, c'est l'impuissance de l'Europe à anticiper les crises et à anticiper ces grands défis. Au moment du printemps arabe, l'Europe est restée malheureusement terriblement silencieuse et elle n'a pas su accompagner cette formidable révolution. Il y a eu l'absence de politique extérieure commune. Au moment de la guerre d'Irak, on a vu Tony Blair qui immédiatement s'est précipité pour soutenir George Bush. On a vu 8 pays qui ont écrit une lettre à George Bush pour l'assurer de leur soutien. Et tout ça a montré vraiment que l'Europe n'avait pas de cap, n'avait pas de vision.
Alors, quelles mesures concrètes serait nécessaire pour rendre la confiance en l'Europe, pour lui redonner du crédit?
Moi, je pense que ça dépasse les mesures concrètes. Je crois qu'il faut vraiment... Moi, ce que j'appelle de mes voeux, ce serait un message politique très fort de la part de certains dirigeants. Bon, bien sûr, on pense à Angela Merkel, mais pas seulement. Matteo Renzi, vous en parliez à l'instant, et qui dirait, eh bien, écoutez, non, l'Europe n'est pas morte, absolument pas, et on va ouvrir le grand chantier de l'Europe rénovée. Et on va le faire, enfin, avec les citoyens. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a construit l'Europe, il faut bien le dire, sans y associer les citoyens, sans y associer les jeunes. Et vous voyez, ce livre, les jeunes ont souhaité y apporter leur contribution. C'est très passionnant parce que ils aspirent à une Europe rénovée, mais ils aspirent à une Europe dont ils seraient les acteurs aussi.
Bon, alors, est-ce que c'est un remède qui vous paraît suffisant?
Oui, enfin, suffisant, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut repolitiser l'Europe. Mmh. Il faut insuffler des valeurs, des idéaux et des débats contradictoires dans ces institutions qui fonctionnent sur un monde, un mode feutré, un mode de compromis qui est sans doute nécessaire pour faire fonctionner des structures hétérogènes, mais qui en même temps produit vraiment ce sentiment d'opacité et qui fait que les citoyens ont beaucoup de mal à savoir, enfin à identifier les protagonistes des débats, identifier les options possibles, le fait que par exemple l'austérité en matière économique semble imposée, jamais discutée, c'est quand même quelque chose qui, à mon sens, est aussi l'une des raisons fondamentales de ce désamour ou de cette déception et de cette idée selon laquelle les décisions seraient imposées par des espèces de structures qu'on connaît mal, la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, etc. Et si on n'a pas des moyens d'ouvrir ces structures vers les syndicats, les associations, les ONG, de recréer des liens vraiment avec les citoyens européens, on aura beau faire toutes les réformes constitutionnelles qu'on veut. Hein, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans à peu près. Tous les 4-5 ans, on modifie les traités. Enfin, les chefs d'État et de gouvernement et des hauts fonctionnaires remanient les traités et les font adopter plutôt par des parlements parce que en cas de référendum, ça coince. Donc on a des processus qui sont finalement très très fermés, des processus élitaires qui font intervenir un nombre très restreint d'acteurs et qui excluent la majorité des populations européennes. Donc, et c'est vraiment un manque de débat, me semble-t-il, qui est le principal problème.
C'est resté très élitiste, en effet. Mmh.
Mais pourquoi serait-ce davantage une volonté aujourd'hui de changement que ça ne l'était hier?
Parce que...
À cause du Brexit?
Non, pas seulement à cause du Brexit. Parce qu'il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte que l'Europe est malade. Mmh. Est profondément malade et
malade
en grand danger.
On parle d'harmonisation fiscale, par exemple. Ça, c'est un point important pour empêcher, effectivement, que des travailleurs venus d'autres pays pratiquent leur profession dans des pays où les salaires sont beaucoup plus hauts. On a parlé d'intégration des systèmes administratifs. On a parlé de régulation bancaire. Tout ça semble extrêmement compliqué à accomplir, non ?
Ça paraît très compliqué, mais bon, je vais prendre un exemple concret qui choque beaucoup. Bon, la France souhaiterait que les transporteurs routiers puissent appliquer à leurs chauffeurs le SMIC français lorsqu'ils exercent en France. Mmh. Bon, la Commission menace d'une procédure d'infraction. C'est incompréhensible pour les citoyens. Alors que non seulement ça serait une avancée sociale, mais ça serait aussi tout simplement de la concurrence loyale. Bon, un autre exemple, la Commission présente un plan pour lutter contre l'évasion fiscale, pour lutter contre les pratiques des multinationales dans ce domaine. Bon. Un certain nombre de pays bloquent, dont la République tchèque, mais d'autres aussi. Bon, pourquoi ? Parce qu'il faut l'unanimité pour toute réforme fiscale. Et là, il faut bien le dire quand même, ce sont les Britanniques qui ont tenu à ce que ça reste du domaine de l'unanimité. Mmh. Et moyennant quoi, on aboutit à un plan qui est de l'eau tiède et qui n'aura aucun effet concret. Et alors les citoyens, ils voient cela, ils comprennent très bien, et vous avez tout à fait raison, ils souhaitent de grands débats. D'ailleurs, moi j'avais observé, on avait tous observé, au moment du fameux référendum de mai 2005, au moins de ce point de vue-là, ça a été formidable, il y avait des débats extraordinaire, on discutait pendant des nuits entières, les gens s'intéressaient beaucoup, beaucoup.
Mais est-ce qu'ils sont possibles ces débats, c'est ça? Je veux dire, cette règle de l'unanimité,
alors aujourd'hui,
par exemple...
Vous dites, est-ce possible? Ben, c'est possible si on sait tirer les leçons des échecs et de l'expérience, tout simplement.
Oui, et puis je pense qu'il faut accepter le débat, il faut accepter le conflit politique, le conflit idéologique, et pas toujours essayer de l'euphémiser ou de le mettre de côté, ou de dire que c'est seulement au Parlement qui peut avoir lieu, mais que, par exemple, les opinions des commissaires, en fait, on ne les connaît jamais, on connaît l'opinion du collège.
Oui, ça reste donc, très opaque.
ça reste très opaque. Mmh. C'est la même chose dans la Cour de justice, à la Banque centrale, des institutions quand même qui jouent un rôle profondément politique. C'est la Cour de justice quand même qui a rendu des arrêts sur le droit social, en fait, sur la directive qui concerne justement ces travailleurs détachés. Donc la Cour de justice est un bon exemple d'institution qui joue un rôle éminemment politique. Qui n'assume pas ce rôle politique, qui n'est jamais sommée de justifier politiquement les décisions qu'elle prend. Donc c'est un déni de démocratie, c'est sans doute aller un peu loin, mais un déni de débat en tout cas.
Oui, mais c'est un reproche qui est souvent fait à l'Europe aujourd'hui, cette bureaucratie européenne, cette nouvelle caste peut-être de fonctionnaires coupés du quotidien des gens. C'est une réalité ?
J'ai parlé tout à l'heure des dérives technocratiques. Ouais. Il y en a eu, c'est sûr. Bon, ceci étant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il faut voir les choses. Mais les citoyens ont le sentiment qu'on a concédé des transferts de souveraineté et ils n'en ont pas vu les effets. Ils ont vu les contraintes et ils n'ont pas vu la réponse à leurs attentes dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la lutte contre le chômage, dans des domaines qui sont essentiels pour la vie des citoyens. Répondre enfin aux attentes des citoyens et faire cette Europe avec eux. Et je suis convaincue qu'à ce moment-là, ils accepteraient beaucoup mieux certains transferts de souveraineté. Quand on leur explique, par exemple, qu'avoir fait une monnaie unique sans un minimum de coordination économique, financière, budgétaire, c'est une gageure. C'est quelque chose qui est tout à fait... tout le monde le reconnaît, mais ça ne bouge pas. Et je reconnais que j'ai c'est un titre un petit peu provocateur lorsque je disais Brexit une chance. Je pense que ce Brexit, puisque ainsi en ont décidé les Britanniques, eh bien, ça peut être la chance d'une clarification et la chance pour ceux qui veulent aller de l'avant de le faire.
Allez, un mot peut-être positif parce que on n'a pas évoqué les avantages de l'Europe. Finalement, il y en a beaucoup. Peut-être on les évoque pas parce qu'ils finissent par nous échapper parce qu'ils sont tellement intégrés à la culture commune. Qu'est-ce qui marche bien en Europe, Lorne Meyer ?
Ben, la liberté de circulation des personnes, la liberté d'étudier à l'étranger, la liberté de traverser des frontières sans être contrôlée et sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit. Donc il y a énormément de choses qui marchent bien, mais qui sont de l'ordre vraiment de la vie quotidienne et qui sont peut-être aussi qui n'ont pas été peut-être présentées de la manière adéquate, c'est-à-dire qui ont été présentées comme des mesures un peu techniques. Alors que, par exemple, le programme Erasmus, pour prendre juste cet exemple-là, c'est un outil formidable d'intégration, d'ouverture d'esprit, de création de sentiments de cohésion, d'appartenance au-delà de la communauté nationale. Donc il y a énormément de petites choses comme ça, de petits programmes qui sont devenus...
Oui. Il y a eu des acquis tout de même très, très importants. Je pense dans le domaine, par exemple, de la protection des consommateurs, de la protection de l'environnement, la coopération interuniversitaire est une grande réussite de l'Union européenne.
Il semble, puisqu'on parle d'Erasmus, que les jeunes britanniques ont majoritairement voté en faveur du maintien, dans l'Union. Est-ce qu'on est face à un problème générationnel, une population vieillissante qui a du mal à accepter la transformation du monde, Nicole Fontaine ?
Oh, je n'irai pas jusque-là. Je crois qu'il ne faut pas faire de conflit de génération. Je crois sincèrement que les jeunes, aujourd'hui, ont envie de retrouver un idéal européen. Et je ne suis pas surprise que les jeunes britanniques, qui se voyagent beaucoup, il y a énormément d'échanges, et c'est peut-être le résultat, justement, de cette coopération entre jeunes, que les institutions européennes ont beaucoup encouragé, notamment au Parlement européen, on a beaucoup travaillé sur ces sujets, peut-être que ça, c'est un résultat positif.
Lorne Meyer, en conclusion et en quelques mots.
Sur les jeunes et l'Europe, oui, mais je pense que les jeunes symbolisent ce que vous dites, c'est-à-dire que pour eux, n'ayant pas vécu l'Europe d'avant, tous ces avantages de libre circulation, de fait d'avoir une monnaie unique, enfin bon, même si les Britanniques ne l'ont jamais eu, mais ils vivent un mode de vie, en tout cas les jeunes étudiants, ça n'est pas forcément tous les jeunes, mais les jeunes étudiants vivent sur un mode très européanisé et ça doit leur sembler peut-être tellement évident qu'ils ne voient pas la nécessité de défendre en fait ces acquis.
Bon, seul l'avenir nous dira si les Britanniques ont eu raison de se séparer de l'Union européenne. rendez-vous peut-être dans quelques mois ou quelques années pour en reparler. Merci à toutes les deux, Nicole Fontaine, ex-présidente donc du Parlement européen, ancienne ministre, auteure de Brexit, une chance point d'interrogation aux éditions Auteurs du Monde, avec comme sous-titre Repenser l'Europe. C'était notre sujet d'aujourd'hui. Et puis Laure Neumayer est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci également à Florence Ponce, qui a préparé cette émission, à Claude Battista qui l'a réalisée. Lundi, un autre débat en compagnie d'Anne Souhaitemont. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. Un nouveau journal dans quelques secondes.